deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire titrée « Sous le vernis de la Renaissance ». Aujourd'hui, le documentaire. Après vous avoir parlé hier avec Didier Le Fur des contes et légendes qui entourent la figure de Diane de Poitiers, et avant demain de nous intéresser aux échanges de savoir à la Renaissance, le documentaire de ce matin, signé Victor Massel-Lépinet et Anne Fleury, nous propose de nous glisser sous le vernis d'un tableau, sous le vernis d'un chef-d'œuvre, la bataille de San Romano de Paolo Uccello, conservée au musée du Louvre. Pourquoi a-t-il été composé ce tableau dans le premier 15e siècle italien, du côté de Florence, berceau de la Renaissance? Que nous raconte compte-t-il ce tableau, et surtout, pourquoi nous parle-t-il encore au début du XXIe siècle? C'est ce que tente d'expliquer dans ce documentaire jusqu'à 10h de la Fabrique de l'Histoire Nadège Lanéry-Dagen, Natacha Pernac, James Bleudet, Jean Boutier et Neville Rollet.
Donc, en fait, le regard débute à droite. À droite, on a un cavalier arrêté de trois quarts d'eau sur un cheval brun. Il a ses quatre pattes posées au sol. Ensuite vient le cavalier sur le cheval blanc, trois pattes posées au sol, qui lui aussi est de trois quarts d'eau. Puis vient le condottiere sur le cheval noir, deux pattes posées au sol. Puis on arrive à gauche au cavalier qui galope, deux pattes au sol, mais réunies de manière à ce qu'on n'en voit qu'une. En fait, on a donc quatre pattes au sol, puis trois, puis deux, puis une. Plus ça va vite, moins les chevaux touchent terre.
Je ne suis pas mathématicienne, mais je suis convaincue qu'un algorithme permettrait de rendre compte de ce tableau. Algorithme qui permettrait de prendre en compte les couleurs, rouge, jaune, 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 rouge, jaune, 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 rouge, qui permettrait de prendre en compte, en quelque sorte, les fractures, j'ai presque envie de dire les fractales, c'est-à-dire le rythme des formes et leur répétition en plus petit à l'intérieur de ce rythme. Les boucliers sont ronds, mais les pastilles sont rondes. Il y a la pointe des lances, mais sur les boucliers, il y a le triangle en pointe, de nouveau du motif. Certains des éléments décoratifs des couvre-chefs, qui ressemblent à de grands vases de plumes qui sont peut-être métalliques, peut-être en tissu, sont noir-blanc, noir-blanc, noir-blanc.
San Romano, noir-blanc, une bataille en mouvement. Victor Masset de l'Épinay, Anne Fleury.
Combien y a-t-il de chevaux? Je serais bien en peine de vous les décrire précisément, puisque on voit qu'il y a une espèce de récurrence du motif qui le rend parfois presque illisible. On arrive à voir les premières silhouettes qui se détachent au premier plan, ces silhouettes de chevaux. Mais en revanche, dès qu'on progresse vers la profondeur du tableau, il y a une espèce de démultiplication qui se fait, de brouhaha de la bataille, qui est rendue par cette sorte de démultiplication composée, mais en même temps extrêmement foisonnante.
J'ai essayé de me souvenir quand est-ce que je l'avais vu pour la première fois, parce que pour tout historien de l'art, c'est important, même pour tout le monde, de se souvenir d'une première rencontre avec quelqu'un, mais aussi avec un tableau. Je suis né à Paris, je suis allé au Louvre très souvent avec mes parents, avec l'école. Celui-ci, aucun souvenir d'enfance, d'adolescence. Et c'est simplement quand j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art que je l'ai regardé de près. Si j'ai pas de souvenir, c'est pour une raison simple, c'est que ce tableau est une ruine. On voit rien. Même l'image qu'on a devant nous, c'est une photo qui est un peu truquée. Quand on va au salon carré, il y a une sorte de voile devant le tableau qui fait qu'on arrive moins bien à le voir. Le peintre a utilisé beaucoup d'argent qui a viré, il n'y a pas d'arrière-plan alors qu'il y en avait sûrement, la lumière même a disparu, et donc c'est quelque chose comme une fresque qui s'effacerait en fait. Et ce qui est magnifique dans ce tableau-là, c'est d'une part justement que c'est quelque chose qui est en train de disparaître, et d'autre part qu'il y a quelques détails qui sont exceptionnels. Et ça, on peut les voir que si on a quelqu'un qui dit « Regarde, regarde, regarde les sabots des chevaux. »
Alors on peut regarder maintenant les pattes avant. Le premier a zéro patte levée. Le deuxième, qui commence à partir, en a une. Le condottiere, deux pattes levées. Et le cheval qui galope, 10 pattes. 10 pattes, en fait, qui tournent toutes autour d'un même axe. c'est évidemment un des moyens qu'a Uccello pour traduire le mouvement. Mais au fond, c'est ce qu'on a dit aussi des animaux peints dans les grottes préhistoriques. C'est ce qu'on peut voir aussi sur la frise du Parthénon, sur les vases grecs, c'est-à-dire multiplier les jambes. Alors bien sûr, deux pattes sont brunes, les autres sont de couleurs différentes. Évidemment, ils les individualisent en quelque sorte, ce qui bien sûr crée un effet de nombre. Mais en fait, son idée, c'est bien de montrer un mouvement décomposé.
Londres, National Gallery. Niccolò da Tolentino à la tête de l'armée florentine. Florence, Galerie des Offices. Bernardino della Ciarda désarçonné, la défaite du camp siennois. Paris, Musée du Louvre, la contre-attaque de Micheletto da Cotignola. Trois tableaux de Paolo Di Duono, Di Paolo Uccello, en français Paul Loiseau, peints dans la première moitié du Quattrocento. Trois tableaux célébrissimes pour une bataille qui l'est moins, la bataille de San Romano, qui opposa en 1432 les Florentins aux Siennois. Trois grands panneaux de bois, conçus pour être vus côte à côte, mais qui ne le seront peut-être jamais, vu leur état de fragilité.
Bon, et là on va tourner à droite pour rentrer dans les salles des primitifs italiens. En haut donc de l'escalier qui mène à la Samothrace.
C'est la bataille du Louvre, parfois surnommée les Lances, que nous regardons aujourd'hui, et notre regard devra embrasser et susciter plusieurs mouvements. Mouvement des troupes d'abord, à pied et à cheval sur le champ de bataille, emmenées par un condottiere. Mouvement scientifique et artistique du Quattrocento florentin, dans lequel évolue Paolo Uccello. Mouvement du tableau lui-même, qui déménagea à Florence de palais en palais, avant d'arriver au Louvre. Mouvement de la critique, qui fit longtemps d'Uccello un artiste alambiqué ou attardé, avant de le consacrer plus récemment comme novateur et puissamment moderne, quitte à en faire le premier cubiste. Mouvement, enfin, de l'image sous nos yeux, qui obsède depuis de longues années le peintre James Bleuder.
Voilà, c'est une peinture que j'ai beaucoup regardée quand j'étais jeune. C'est les primitifs italiens, c'est parmi ce que je préférais, mais que je regarde plus. Enfin, où je continue de regarder la bataille d'Uccello. Ça, c'est la passion de 40 ans. Voilà, on se retrouve tout au bout de la grande galerie et on rentre dans le salon carré où est exposée la bataille de San Romano. J'ai copié ce tableau quand j'étais étudiant aux Beaux-Arts. Je devais avoir 22 ou 23 ans quand j'ai commencé. Il m'a fallu un an et demi, encore je serais bien resté plus longtemps devant, mais le Louvre a fini par me chasser et trouvait que j'abusais à rester devant si longtemps. Alors que le panneau fait 3,15 m environ, sur 1,80 m, ma copie, si mes souvenirs sont bons, faisait 2,40 m de long, sur 1,40 m à peu près de haut.
Et c'était sur une toile?
Voilà, alors évidemment j'ai copié sur toile, avec mes moyens à moi à l'huile, alors que le panneau en fait est peint à l'eau, avec des glacis à la fin à l'huile. Vous avez la reproduction de la reconstitution.
Je viens en tête.
Voilà.
Superbe, superbe en couleur. D'accord, je ne l'avais pas vu en couleur. Donc ça veut dire que la construction de ce tableau est faite par rapport aux deux autres.
Les trois panneaux ont été faits ensemble.
Pour vous, ils sont faits ensemble.
Selon moi, très vite après la bataille, pour commémorer la bataille, dans les années 30. J'ai jamais très bien compris pourquoi on a prétendu que le tableau aurait été fait dans les années 50. Tout est composé symétriquement, comme le triptyque, deux panneaux sur un mur, un angle droit. Comment il aurait fait pour composer si bien si ça n'avait pas été conçu ensemble?
Jean Boutier, vous nous avez rejoint devant ce tableau et vous avez croisé James Bleuder. James Bleuder qui vous disait que c'était en tant que peintre qu'il regardait ce tableau et que c'était le tableau aujourd'hui qui lui parlait. Vous, c'est en tant qu'historien?
Même l'historien regarde un tableau avec les yeux d'aujourd'hui, ça serait difficile de le faire autrement. Mais c'est vrai que pour un historien, le tableau est intéressant pour différentes raisons. D'abord parce que Premier élément qui me semble important de dire, cela nous amène à avoir une idée très différente de ce qu'est la Renaissance. On a une vision souvent un peu idyllique, un moment de création, de bonheur, etc. On oublie que, dans le cas de la ville de Florence, puisque ce tableau concerne bien évidemment la République de Florence, nous sommes à ce moment-là, fin 14e, jusque vers dans les années 1440, dans un moment de guerre quasiment continue. Le tableau d'Uccello nous rappelle la centralité et l'importance de la guerre, importance bien évidemment pour le vécu des habitants, mais aussi importance pour les institutions. Un certain nombre de grandes transformations ont lieu à cause de la guerre. Réforme fiscale, nouveau mode de perception des impôts. Il y a un cadastre qui est établi en 1427, en pleine période de guerre. Et ce que l'on oublie également, c'est que l'ascension finale des Médicis, la prise, je dirais, de contrôle de la ville par les Médicis, est en grande partie la conséquence de la guerre. Sans la guerre, on peut penser que les Médicis n'auraient jamais été les personnes les plus importantes de Florence. Alors, cette guerre précisément, il faut la remettre aussi dans un cadre général. 14e, 15e siècle, les États italiens, les grandes cités-États du Moyen-Âge, Venise, Milan, Florence, sont des villes qui accroissent le territoire autour d'elles. Et en se développant, ces territoires deviennent en conflit les uns avec les autres. Alors, ces conflits, je dirais, redoublent ou accompagnent des divisions anciennes, notamment les fameuses divisions entre les Guelfes et les Ghibellins, les partisans de l'Empire et les partisans de la papauté, qui jouent un rôle, mais tout cela est très mélangé, et nous sommes à un moment où, justement, le danger majeur, si on se place du côté florentin, c'est l'expansion de Milan et des Visconti. Florence est en guerre en permanence contre les Visconti, avec des alliances, hein, un front d'alliance. Pour ce qui nous concerne, une alliance qui va de Venise, Florence et les États du Pape. En face, Milan, Gênes, Lucques, petite république mais très puissante, et Sienne. Ce tableau est intéressant parce qu'il renvoie à une bataille qui est très peu connue, hein, qui est peu citée. Machiavel, par exemple, qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est guerre, n'en parle jamais. C'est une bataille pourtant très décisive d'un point de vue stratégique, car elle se déroule dans une petite localité, quasiment même un lieu-dit, de la basse vallée de l'Arno. On est à peu près à 30 km à l'est de Pise. Or, l'État de Florence, en se développant au début du XVe siècle, a gagné un accès sur la mer qui est absolument indispensable pour une grande puissance économique qui vit notamment du commerce du textile, de l'exportation, du commerce à distance et a besoin d'un accès à la mer. Conflit, Sienne et Lucques, si vous imaginez la carte de l'Italie, c'est deux villes qui sont de part et d'autre de la vallée de l'Arno. Si Sienne réussit à relier Lucques, Sienne coupe Florence de la mer et crée un espèce de grand territoire qui va de Milan à Sienne. Donc cette bataille, elle est stratégique pour les Florentins de ce point de vue-là. C'est une double raison de survivre, en empêchant l'ennemi de se créer un vaste territoire et en conservant un accès sur la mer. Alors, venons-en maintenant à la bataille. Le 1er juin 1432, les Siennois remontent légèrement vers le nord et s'approchent de l'Arno, et les Florentins qui ont mis à la tête de leurs troupes Niccolo da Tolentino, celui que l'on voit sur le tableau de Londres, décident d'engager la bataille.
Lorsqu'on voit le tableau du Louvre au premier abord,
Natacha Pernac,
on est devant une bataille qui a déjà été illustrée dans les deux autres panneaux du cycle. On est au moment terminal de la bataille et on est ici avec l'un des condottieri de l'armée florentine, Michelotto da Cotignola, qui occupe le centre de la représentation, qui est monté sur son cheval noir, un cheval noir qui est extrêmement dynamique, qui a l'air de nous foncer dessus. Et puis tout autour, d'autres cavaliers. Il y a un cheval qui se place sur la droite et qui a l'air d'entrer dans le tableau. Et on a donc cette espèce de mêlée, mais d'une mêlée qui est aussi une mêlée organisée.
Est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu, ce chef derrière lequel tourne et se range et tourne tous ces chevaliers casqués et masqués?
Oui, l'histoire n'a pas retenu tout à fait le sort de ce Micheletto da Cotignola, qui était un condottiere, c'est-à-dire un chef de guerre stipendié, hein, c'est un mercenaire, c'est tout, c'est un chef mercenaire. Et donc ce monsieur, ben, au fond, sa figure historique n'a pas d'importance.
Nadège Lanéry d'Agen.
Et de fait, ce n'est pas un portrait, Ça fait penser, si vous le regardez, à ces balles de mousse très dures, dans lesquelles on pourrait, en appuyant les pouces, inscrire deux yeux, en pinçant un peu, inscrire un nez. C'est un visage absolument circulaire, sphérique et sans ossature. C'est tout, sauf un vrai homme à qui il faudrait demander une expression hargneuse, une expression guerrière, une expression belliqueuse. Et d'autre part, cet homme, il porte un incroyable couvre-chef. Va-t-on à la guerre avec des couvre-chefs comme cela ? C'est une sorte de millefeuille de boudins d'osier qui sont couverts de tissus violets et dorés que l'on portait effectivement pour parader dans les villes de la fin du Moyen-Âge en Italie. C'est une forme géométrique qui est l'équivalent d'une auréole, si vous voulez, pour un personnage saint. C'est-à-dire qu'au centre du tableau, la tête si ronde de cet homme, dont le harnachement, le baudrier d'armure forme lui-même un cercle, est exalté, entouré par ce triple boudin de tissu et d'or. Car l'or est beaucoup passé aujourd'hui, mais c'était doré à la feuille d'or, et il faut imaginer les résonances métalliques dans les pastilles d'or et donc dans ces fleurs d'or qui couvrent cet invraisemblable chapeau.
Alors, je suis toujours très amusé par cette bataille parce que, d'une certaine façon, c'est Austerlitz, 4 siècles auparavant. Pourquoi ? Les Florentins sont en position difficile, en infériorité numérique. Les Siennois sont plutôt sur les collines, ils dominent. Et l'astuce de Niccolo da Tolentino est de dire « je répartis mes troupes, il a 8 compagnies. Je répartis mes troupes, j'en mets 2 au fond de la vallée et 3 de chaque côté sur des collines. Et en plus, en réserve, j'ai les troupes Micheletto Attendolo da Cotignola. » Micheletto est un peu loin. Niccolo da Tolentino attire les Siennois avec ses troupes faibles au fond de la vallée. Et une fois que les Siennois sont au fond de la vallée, il fait venir les troupes cachées sur les collines et il demande à Micheletto à son tour de venir. Et les Siennois sont défaits et s'enfuient. C'est ce que l'on voit bien sur le côté droit du tableau de Florence, les troupes siennoises poursuivies par des cavaliers florentins. Donc voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans les chroniques du moment, pour les Siennois, ce n'est pas une défaite. Il y a une espèce de camouflage de la défaite. Et pour les Florentins, c'est quand même une victoire. Et on le voit surtout une année plus tard, lorsque le chancelier florentin, il s'appelle Leonardo Bruni, fait l'éloge de Niccolo da Tolentino en juin 1433. C'est là où on a vraiment l'affirmation par Florence que la bataille de San Romano est une grande bataille, est une bataille décisive, que les Florentins l'ont bien emportée avec l'appui des Vénitiens, et que désormais la coalition adverse a été battue. D'ailleurs, il le fait juste après que la paix ait été signée avec Milan en avril 1433.
L'histoire n'a pas retenu le nom de cette bataille. Et objectivement, sur le moment, elle n'a pas eu une telle importance. Elle a été montée en graine apparemment par les historiens de la République de Florence, par des gens comme Bruni, peu après. Mais elle n'a aucune importance objective. Par ailleurs, ce tableau, il a été pendant des siècles, il a été oublié. Quand il est passé dans le domaine des biens publics florentins, en quelque sorte, il y avait donc 3 batailles. Les gens qui étaient responsables du sort de la destinée de ces 3 batailles ont trouvé que, ouh là là, 1 c'était bien, 2 c'était beaucoup, et 3 franchement, 3 fois avoir à peu près le même tableau, ça n'avait aucun intérêt. C'est comme ça que les tableaux, 2 des 3 tableaux, ont été vendus à l'étranger à la fin du XVIIIe siècle, et ont été achetés, ils sont donc aujourd'hui en Angleterre et en France. Ces tableaux, ils ont été oubliés très longtemps. C'est probablement notre goût du XXe siècle qui se soucie moins du détail de ce qu'on appelait la peinture d'histoire jadis et davantage d'une sorte de rythme chromatique et formel. C'est plutôt notre époque qui regarde ce tableau.
C'est un tableau qui, pour moi, m'intéresse beaucoup parce qu'il montre comment des enquêtes longues, méticuleuses, réussissent progressivement à nous faire connaître les conditions effectives de production du tableau.
Jean Boutier.
Il y a une série d'étapes importantes. La première, c'est un historien de l'art qui est un grand collectionneur d'origine anglaise, Herbert Horn, qui identifie le tableau. En 1901, on publie l'inventaire des biens de Laurent le Magnifique, qui est décédé en 1492, Et dans cet inventaire de biens, on a la mention de trois tableaux qui s'appellent la bataille de Saint-Romain. Ce que fait Horn est de dire il s'agit bien des trois tableaux que l'on connaît au Louvre, aux Offices à Florence et à la National Gallery à Londres. L'idée, c'est que ces tableaux ont été produits dans les années 1450 et ils servent à décorer le palais Médicis qui se trouve à l'époque via Larga, qui est l'actuel via Cavour, c'est-à-dire le grand palais des Médicis qui est au centre de la ville de Florence, à peu près 250 mètres de la cathédrale. On en reste à peu près là.
Et donc que le tableau serait une commande des Médicis.
Et donc dans ce cas-là, oui, c'est les Médicis qui l'ont commandé pour célébrer une victoire à laquelle ils ont participé.
C'était presque trop beau. Chef-d'œuvre absolu de l'histoire de la peinture. Dans son histoire de l'art, Ernst Gombrich parle de la bataille de San Romano. Il prend notamment ce détail-là.
Neville Rollet.
Du soldat qui est mort et qui est au premier plan sur la gauche du tableau de Londres et qui est vu avec un raccourci perspectif exceptionnel, extrêmement moderne justement pour l'époque. Aucun peintre ne peint comme ça à ce moment-là. Donc ce tableau qui est d'une modernité confondante est en plus commandé par la plus grande famille de Florence, celle qui est à la fois au pouvoir, sans le dire, entre 1434 et 1494, puis après qui va être chassée du pouvoir et de Florence, avant de revenir au XVIe siècle comme duc, puis grand-duc de Florence. Les Médicis, c'est la grande famille de Florence, et de se dire qu'un tableau justement exceptionnel, commandé par la grande famille, ça permet de dire, de parler du mécénat des Médicis, et donc ils sont très éclairés, ils achètent le meilleur peintre en perspective, et etc., etc. Le problème, c'est qu'au début des années 2000, un historien de l'art italien, qui est le plus grand spécialiste de la sculpture italienne de la Renaissance, et notamment de Donatello, qui s'appelle Francesco Cagliotti, il est professeur à l'université de Naples, en faisant des recherches sur Donatello et les Médicis, il s'est rendu compte qu'en 1484, ces trois batailles de San Romano avaient été prises, avaient été demandées très fortement par Laurent le Magnifique, donc le seigneur de la République de Florence. Florence reste une république à partir de 1434, mais elle est toujours dirigée par les Médicis, comme l'Ancien d'abord, puis Pierre le Goutteux son fils, puis Laurent le Magnifique son petit-fils.
Francesco Cagliotti découvre par hasard l'existence d'un registre dans lequel on a, à partir de 1494-1495, le fonctionnement d'une institution chargée de gérer les biens des Médicis. En effet, lorsque les guerres d'Italie commencent, que les Français arrivent à Florence, il y a une révolte populaire et les Médicis sont chassés. Leurs biens sont confisqués et on nomme des administrateurs de leurs biens. Et on a donc quelques éléments concernant le patrimoine artistique des Médicis. Et notamment, la plainte d'un Florentin, Damiano Bartolini Salimbeni, qui demande la restitution des batailles d'Uccello. À partir de là, toute une enquête, je dirais, rétrospective, permet d'établir la généalogie des possesseurs du tableau. On comprend que vers 1484-1485, Laurent le Magnifique, très grand collectionneur d'art, voit les tableaux, qui à ce moment-là se trouve dans une villa de la périphérie au nord-ouest de Florence, demande qu'on les lui donne. On ne les lui donne pas, il les fait prendre. Ces tableaux appartiennent à deux frères, Damiano et Andrea Bartolini Salimbeni, qui les ont en héritage de leur père, qui s'appelle Leonardo et qui est mort en 1479. Enquête méthodique, les tableaux ne sont pas le résultat d'une commande des Médicis, mais de commande d'une autre famille et de quelqu'un assez bien connu, qui s'appelle Leonardo Bartolini Salimbeni, qui a joué un rôle dans la bataille, qui a joué un rôle dans les guerres suivantes, parce qu'il a été ce que l'on appelle le provéditeur des 10 de Balia. Les 10 de Balia, c'est un conseil qui s'occupe des affaires militaires à Florence. En cas de guerre, on le crée exceptionnellement, et à chaque guerre, on crée un conseil des 10 de Balia. Et il sera gonfaloné de justice, en quelques autres mots, le président de la République florentine, pendant quelques mois. C'est des charges qui tournent tous les 3 mois ou tous les 6 mois, en 1459. C'est lui qui est le commanditeur du tableau.
Leonardo Salimbeni,
Natacha Pernak.
Il avait probablement fait réaliser ces trois panneaux pour son palais personnel, à Florence même, près de l'Arno, dans le quartier que l'on appelle le quartier de Santa Trinita. Et il y a un élément qui est tout à fait important dans cette mise en scène, c'est que les tableaux ont été coupés au moment où ils ont été pris par Laurent le Magnifique, et peut-être même avant. Ça, ce sont des éléments qui sont assez intéressants, puisqu'ils ont changé de format. Ils sont devenus rectangulaires, alors qu'ils étaient au départ arqués. Il y avait vraiment une lunette semi-circulaire, donc qui les achevait. Ça veut dire donc que le panorama des lances devait être plus ample. Ça donne aussi un effet sans doute de mouvement encore plus fort. Et puis il y a peut-être aussi un autre élément qui me séduit, parce qu'on a mis longtemps à le comprendre. C'est cet étendard qui comporte au centre du tableau la représentation d'une licorne. Licorne qui est souvent évidemment un animal très symbolique, qui évoque la vertu, la pureté, etc. Mais qui, semble-t-il, dans ce contexte-là, se rapporte en fait au lieu de la commande du tableau, qui est le quartier de Santa Trinita, donc où était placée la maison de Salimbeni, et c'est l'emblème du quartier, en fait. Et je trouve ça assez amusant, parce qu'il y a là une forme d'identification du propriétaire qui s'insère, en quelque sorte, de cette manière-là dans le tableau.
Uccello, dans les années 30, est très connu. Il vient de réaliser une fresque immense dans la cathédrale de Florence. Giovanni Acuto, Sir John Hawkwood, qui est justement un condottiere. Il va réaliser aussi des cartons pour les vitraux de la cathédrale de Florence. Et on peut penser que justement son réseau lui permettait de connaître les plus grands commanditaires de l'époque. En même temps, ça n'est pas un des peintres privilégiés des Médicis. Les Médicis préfèrent Fra Angelico, préfère aussi et surtout Filippo Lippi, qui va réaliser beaucoup d'œuvres pour notamment le retable majeur de la chapelle du Palais Médicis à Florence. Enfin, c'est une époque à Florence où il y a énormément de peintres d'un génie exceptionnel qui sont tous en concurrence les uns contre les autres pour avoir les faveurs des Médicis. Et s'ils n'y arrivent pas, eh bien, ils vont chez les alliés des Médicis, les Bartolini Salimbeni, qui vont commander à l'un des peintres les plus célèbres, parce qu'il a réalisé un monument public, de réaliser trois vues d'une bataille, d'un événement contemporain. La bataille de San Romano a eu lieu 6 ans avant les faits. Et donc, aujourd'hui, ça devient quelque chose de mythique. À cette époque-là, c'était vraiment une œuvre d'une modernité incroyable qui n'est pas vue comme telle pendant longtemps, parce qu'elle est envoyée dans une maison de campagne. On n'en parle pas dans les sources de cette époque-là, c'est pour ça qu'on a eu du mal à la dater.
Le tableau a été probablement réalisé en 1438. 1438, c'est 3 ans après la publication du De Pictura d'Alberti, qui va fixer les règles de composition de la perspective, et notamment qui évoque cette question du point de fuite vers lequel convergent des lignes de fuite qui sont organisées selon une sorte de quadrillage très géométrique. Alberti va donc spécifier très nettement les règles de construction de cette perspective. On est 3 ans plus tard, ici, en 1438. Le quadrillage perspectif n'est pas là à proprement parler, de manière très nette, comme il pourrait l'être dans d'autres compositions, et notamment dans les marqueteries qui sont à peu près contemporaines. En revanche, il y a quelque chose qui est absolument génial dans ce tableau, c'est la manière dont il est là, tout de même, ce schéma perspectif, comme en sorte de transparence, et ça se voit notamment dans le sol, ce sol qui est un sol terreux, mais qui est un sol terreux sur lequel sont placées en fait des touffes d'herbes qui forment comme des carrés, des carreaux même précisément, des carreaux de quadrillage, de pavement. Et alors c'est un élément qui est beaucoup plus frappant lorsqu'on regarde les autres tableaux de la série, et notamment le tableau de Londres, où on voit précisément sur le sol des lances qui sont éparpillées, et ces lances ne sont pas éparpillées en désordre, elles sont placés justement selon le principe ordonnateur des lignes de fuite. Il y a ici cette idée qui est encore très présente du pavement perspectif, qui va être revu d'une manière beaucoup plus effacée, un peu assez subtile finalement dans le tableau du Louvre, simplement par cette espèce de trace des touffes d'herbe au sol. Et on voit comment d'un motif qui au départ était une application géométrique assez stricte, assez dure, Uccello va tirer quelque chose finalement qui est plus subtil et qui est surtout très inventif et très amusant.
Giorgio Vasari, Lévis, 1550.
Depuis Giotto, on n'aurait vu aucun peintre aussi ingénieux que Paolo Uccello s'il eût consacré aux figures d'hommes et d'animaux les heures qu'il perdit dans ses recherches sur la perspective. Sans doute cet art est beau et précieux, mais celui qui en fait une étude trop exclusive gaspille son temps, se fatigue l'esprit, finit par adopter une manière sèche, stérile, mesquine, hérissée de difficultés, et risque de tomber dans l'isolement, l'extravagance, la mélancolie et la pauvreté, comme Paolo Uccello.
Vasari écrit un siècle plus tard, et même un petit peu plus. Il écrit dans les années 1550 pour la première édition des Vies, et en 1568 pour la deuxième édition. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Vasari va véritablement s'attarder sur cette question des exercices perspectifs qu'Uccello va poursuivre tout au long de sa vie. Il le dit de manière assez admiratif parfois. Il est très sensible à cette espèce de recherche qui est à ce moment-là aussi un défi du rendu perspectif. Et en même temps, Vasari, qui est un artiste de cour, qui est un artiste qui aime la réussite en quelque sorte, eh bien, est un peu choqué par l'isolement dans lequel Uccello s'est lui-même placé à cause de ces exercices perspectifs.
Vasari a un schéma d'histoire de l'art, un schéma progressiste. Ça commence avec Giotto, ça se développe avec Masaccio et ça triomphe avec Michel-Ange.
Neville Rollet.
Uccello a le malheur d'arriver un petit peu... Il est un tout petit peu plus âgé que Masaccio, mais il est moins révolutionnaire. Et donc, il est forcément un petit peu suiveur de Masaccio de ce point de vue-là, selon Vasari. L'autre problème d'Uccello, c'est que... Il est mort très vieux. Du coup, il se perd un peu dans ses calculs de perspective, comme on lui en vouloir d'ailleurs. C'est quelqu'un qui n'a pas, entre guillemets, eu la chance de mourir comme Masaccio ou Jimi Hendrix à 27 ans. Et donc du coup, quand on meurt à 27 ans et qu'on a déjà fait des choses remarquables, Masaccio c'est la chapelle Brancacci, bien on devient un génie immortel.
Toute aride que semble au premier aspect la science dont Paolo fut le promoteur, l'apôtre et le martyr, elle obtint des résultats féconds que l'injustice seule a pu méconnaître. Les peuples, dont la foi se rétrécissait, à mesure que leur sens s'ouvrait, demandèrent à l'art autre chose que des symboles, langage hiéroglyphique qu'ils se refusaient à entendre. Désormais, pour les satisfaire, il fallait que la forme vînt en aide à l'idée. Pour accomplir la révolution que tous les esprits sollicitaient, il fallait commencer par opérer des réformes partielles et radicales. Vers le dessin, cette partie essentiellement architectonique de l'art devait naturellement se tourner les premiers, les plus puissants efforts. Le dessin, pour Uccello comme pour les Grecs, était le moyen principal de la manifestation de la vie dans les images des corps. Une fois le dessin réhabilité, une fois la vie manifestée, le reste ne se fera pas attendre. Mais le dessin, fils de la science des proportions justes, ne pouvait se relever sans l'aide de la perspective, fille des mathématiques. Or, la perspective était morte. Le siennois Stefano avait été inhabile à la ranimer. Notre Paolo jura d'être plus heureux et il tint sa promesse. Sans relâche, et la nuit et le jour, acharné à son œuvre, il poursuivit la perspective et lorsqu'il eut vaincu cet ennemi, il en fit son ami. Giorgio Vasari, 1568.
Il y a dans la même salle que la bataille de San Romano, je ne sais pas si vous l'avez vu, un tableau qui, je trouve, est extrêmement intéressant parce qu'on ne sait pas qui l'a peint. On ne sait pas de quand il date. C'est un tableau qui représente des portraits, en général qui sont vus de trois quarts. Il y en a un à droite qui est vu de profil. Et de gauche à droite, il y a des inscriptions qui nous permettent de les identifier. Giotto, d'abord. Paolo Uccello, ensuite. Donatello, au centre. Antonio Manetti. Et Filippo Brunelleschi, à droite. Ça veut dire que ce tableau qui est attribué par Vasari à Masaccio en 1550 représente quelques-uns des plus grandes personnalités de la Renaissance. Giotto, le réinventeur de la peinture, Donatello, le réinventeur de la sculpture, et Brunelleschi, le réinventeur de l'architecture. Deux personnalités se glissent dans cette hiérarchie qui est un petit peu incontestable. Antonio Manetti, qui est un mathématicien, élève de Brunelleschi, aussi architecte, donc on peut comprendre... le lien avec Brunelleschi, il est d'ailleurs à côté de lui, et donc Uccello. Cette œuvre-là montre, elle est vraiment historique, elle date de la Renaissance. Elle montre que Uccello, à ce moment-là, est inséré dans ce petit nombre, ce numerus clausus des génies de la Renaissance. Le problème, c'est que cette œuvre, on ne sait pas de quand elle date. Elle est forcément faite à la toute fin, au moins à la toute fin du XVe siècle, puisque Paolo Uccello est représenté comme un vénérable vieillard avec une barbe. Toujours est-il que Uccello a toujours fait partie des peintres de la Renaissance, parfois comme un génie absolu, isolé et solitaire, et aussi comme l'un des maîtres les plus importants de la Renaissance. J'aimerais penser que cette œuvre-là a été réalisée à Florence à la fin du XVe siècle, quand les batailles de San Romano arrivent au palais Médicis, mais j'ai aucune preuve pour ça, donc c'est un peu du roman.
La perspective telle que donc la met au point Brunelleschi et telle que la théorise un peu plus tard Alberti,
James Bleuder,
avec son De Pittura, c'est toujours la perspective qui règne aujourd'hui, c'est la perspective de l'appareil photo, c'est-à-dire de l'œil unique, mais en plus du point de vue unique. En instaurant comme ça le point de vue unique, on instaure du même coup l'unité de temps et l'unité de lieu. Uccello ne veut surtout pas ça. Il veut décrire le mouvement, le décomposer, et donc a besoin pour cela de tout le dynamisme du regard de son spectateur. C'est l'œil du spectateur, en se déplaçant à travers l'espace du tableau, qui imagine, à proprement parler, qui recrée le mouvement. Alors, en toute logique, quand on est face au tableau, bien sûr, le regard se pose d'abord au centre, la place d'honneur, où se trouve le condottiere sur son cheval bondissant, noir. Et à ce moment-là, le regard va être tenté de suivre le regard propre du condottiere et se tourner vers l'arrière, vers la droite, donc, pour voir le cavalier sur le cheval blanc, puis à droite, le cavalier sur le cheval brun. Arrivé là, il n'a plus qu'à parcourir l'espace dans l'autre sens, de droite à gauche, pour aller découvrir le cavalier qui, à gauche, galope.
Dans une image fixe, on peut suggérer très fortement la dynamique du mouvement. Donc c'est un jeu que vous trouvez avant Paolo Uccello chez Masaccio, dans l'ombre de Saint-Pierre. C'est un jeu que vous trouvez après Paolo Uccello chez Hugo van der Goes, que de montrer plusieurs personnages, les uns à côté des autres ou les uns derrière les autres, qui progressent dans un espace et qui, si vous les habillez, ce qui est le cas à peu près ici, de la même manière, pourraient être les différentes séquences d'un seul corps en train d'accomplir un mouvement. Et c'est très évidemment ce qui se passe ici dans la partie gauche de ce tableau, avec le mouvement des lances, et dont l'objet est d'ailleurs de foncer à l'horizontale avec. Au fond, ce que nous avons, c'est un tableau hérisson.
Ce qu'Uccello nous montre là, c'est cinq images du même cavalier qui rabat sa lance pour charger. Alors il est difficile de compter ces images dans l'enchevêtrement des armures, mais on compterait aisément les lances, il y en a cinq.
James Bleuder.
Il fait exactement ce que les futuristes ont cherché dans leur peinture, ce que Marcel Duchamp a fait avec le nu qui descend l'escalier, mais Marcel Duchamp et les futuristes, aidés évidemment par leur connaissance des chronophotographies de Marais ou de Muybridge, mais voilà ce que fait Uccello dès le XVe siècle, décomposer le mouvement. Et c'est peut-être ce qui aussi a fait qu'on a peu perçu le mouvement, c'est qu'il ne cherche pas à l'exprimer par des torsions violentes, par des grimaces, par des gestes outrés, des postures. Un bon exemple de ça serait la bataille d'Anghiari de Léonard de Vinci, mais dont on a un dessin par Rubens, ou justement toute la peinture de Rubens, où le mouvement est traduit par la torsion des corps. Uccello n'a pas besoin de ces torsions, puisque il ne cherche pas à exprimer le mouvement, mais à le représenter en le décomposant.
Évidemment, Paolo Uccello est un peintre. Il appartient à la corporation des peintres. Il a été un peu orfèvre avec Ghiberti quand il était jeune, mais c'est un peintre. Donc ce qu'il fait, c'est des tableaux. Ce n'est pas un mathématicien. Mais, à cette époque-là, la différence, la limite entre peintre, architecte, sculpteur, orfèvre, mathématicien, sont des choses qui sont extrêmement poreuses. C'est-à-dire que quand il fait ces représentations de Mazzocchi, c'est-à-dire ce couvre-chef que les Florentins avaient, qui se tournait autour de la tête, et il en fait des représentations virtuelles en trois dimensions. On a l'impression que c'est une vue d'ordinateur, une image de synthèse. C'est une époque où le savoir n'est pas aussi cloisonné qu'il l'est aujourd'hui. La Renaissance s'invente. C'est le moment où, justement, on dit que c'est le temps revient, c'est la devise de Laurent le Magnifique. Les artistes s'autoproclament d'une certaine Renaissance, et donc, du coup, ils ont besoin de changer les codes. Il y a un monde, un continent englouti qui réapparaît, l'Antiquité. L'Antiquité n'a jamais été totalement oubliée, mais on essaye de la voir sous un autre regard. Et donc, du coup, on est obligé de réinventer ces pratiques-là.
Alors, je voudrais essayer, Jean Boutier, d'écrire un peu le cadre de vie et le cadre de travail d'Uccello. Vous nous avez parlé de Florence au XVe siècle, qui est marquée par la guerre, une guerre perpétuelle et quasiment continuelle. Est-ce que vous pouvez essayer de nous décrire un peu l'atmosphère plutôt du côté des sciences et des arts à l'époque de la confection de ce tableau?
D'abord, bien comprendre ce que c'est que l'Europe en 1420-1430. C'est un territoire qui était très peuplé au début du XIVe siècle, qui a subi une série d'épidémies très graves, l'arrivée de la peste en 1348, et qui a vu sa population réduite à peu près de moitié. Certains historiens pensent que Florence pouvait atteindre 120 000 habitants à la veille de la peste noire. Florence, en 1430, ne compte plus que 40 000 habitants. Pour autant, Florence n'a pas perdu de son dynamisme économique et de sa puissance financière et industrielle. C'est une ville qui connaît ce que certains ont appelé une révolution par la consommation. On voit se multiplier les œuvres d'art, c'est-à-dire que désormais, beaucoup de gens, y compris des gens relativement modestes, peuvent avoir dans leur maison un certain nombre de tableaux de petite taille. Pendant très longtemps, ces tableaux sont plutôt des tableaux à but dévotionnel. Soit il s'agit d'une image de la Vierge, soit il s'agit d'une image du saint qui est plus particulièrement le saint protecteur de la maison. Voilà. Donc on a, je dirais, une nouvelle façon de produire de l'œuvre d'art. Tableaux de chevalet, des tableaux mobiles, alors en dehors des vieilles productions classiques, des fresques, mais des tableaux que l'on peut porter chez soi, que l'on peut transporter, ce qui entraîne l'apparition d'une structure artisanale nouvelle, ce qu'on appelle l'atelier, la bottega en Italie. Un peintre n'est pas un créateur seul face à son œuvre, il est en train de réaliser le plus souvent une commande, qui dans le cadre de Florence a été matérialisée par un contrat devant notaire, où on a précisé, bien sûr, le thème du tableau, les personnages que l'on va avoir, les couleurs que l'on va utiliser. Et là, c'est très intéressant parce que le tableau que l'on voit maintenant, ce n'est absolument pas le tableau tel qu'on le voyait à l'époque. Les cuirasses étaient recouvertes de plaques de feuilles d'argent, par exemple, qui donnaient quelque chose d'extrêmement différent comme matérialisé, alors que ces feuilles d'argent ont progressivement disparu et on ne voit plus que les traits incisés qui permettaient de les délimiter.
Ce qui serait intéressant, justement, dans le cadre d'une exposition, ce serait de faire une restauration, une analyse. Le tableau n'a pas été restauré depuis des décennies. C'est très risqué de restaurer un tableau comme ça, qui est une ruine, parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va perdre aussi des choses originales.
Neville Roller.
Ce serait intéressant d'étudier les pigments de façon très précise. Visuellement, c'est très difficile de dire c'est pas à l'huile, c'est pas à l'eau, c'est pas à l'œuf, jaune d'œuf, blanc d'œuf, etc. Donc c'est vraiment des analyses stratigraphiques qu'il faut faire. Mais je serais justement très prudent parce que à ce moment-là, on a l'impression que les peintres florentins passent de la peinture à la détrempe, à la peinture à l'huile d'un seul coup. En fait, ça n'est pas vrai. Par exemple, pour les fresques de Piero della Francesca à Arezzo, elles ont été restaurées pendant 15 ans. On s'est rendu compte que c'était une technique mixte. C'était un peu de fresque, un peu de peinture à sec, mais aussi avec des pigments différents, parce que les peintres ne sont pas des théoriciens, ne sont pas des historiens de l'art. Heureusement, grand bien leur fasse, ils ont des méthodes qui sont très pragmatiques. Ils s'en fichent de faire un tableau qui soit que à l'huile ou que à la détrempe. Ils s'en fichent de que la perspective elle soit correcte dans tous les points. Ce qui compte, c'est que le tableau marche, fonctionne et que les effets parfois contradictoires qu'ils veulent avoir marchent. C'est-à-dire que quand on regarde cette partie gauche du tableau avec donc un chien, un cheval brun, puis on se rend compte qu'il y a énormément de sabots qui sont relevés. Donc du coup, il devrait y avoir un cheval noir, un cheval blanc, un autre cheval noir, un autre cheval blanc. Mais où sont ces chevaux-là? Je ne les vois pas. Ils devraient être derrière, ils sont cachés. Du coup, je me précipite derrière le cheval, je guette, je ne vois rien.
Et le comble du comble est donné par, quand on regarde sous ce cheval brun, où il devrait y avoir donc quatre chevaux vus en profondeur. Et en fait, il n'y a pas quatre jambes de chevaux, il y a 6-8 jambes humaines de soldats qui sont aussi là, qui font en fait un motif décoratif. Rouge, blanc, gris foncé, comme une sorte de motif héraldique, comme un drapeau en plus qui serait justement posé ici. Uccello nous dit qu'il sait représenter le vrai, mais ce qui l'intéresse, c'est de prendre des fragments de réalité, de les mettre de façon apparemment réaliste, apparemment spatiale en perspective, mais qu'en fait, tout est faux.
Paolo Uccello pourrait être en effet traité d'irréaliste si l'on ne craignait pas de faire commettre une erreur sur les mots, et si l'on n'était pas plus exact en déclarant que ce peintre ne considérait pas la peinture comme une représentation fidèle de la nature, mais comme un art dont les règles sont posées en dehors de cette réalité naturelle. Les virtuoses qui vinrent après lui et qui s'appliquèrent avant tout à représenter le plus fidèlement possible la nature ne comprirent pas qu'Uccello, technicien extraordinaire, vivant à une époque neuve où il pouvait choisir, n'avait pas hésité à s'éloigner de la représentation servile pour s'engager dans une voie plus dure, mais qui était celle qui permettait de considérer la peinture non plus comme un moyen, mais comme un but. C'est grâce à des procédés de toutes sortes que les peintres font vrai, qu'ils donnent la sensation de la vie. Ceux qui ne veulent voir dans la peinture que l'exploitation de ces trucs ne méritent pas d'être traités de peintres. Ce qui donne au panneau d'Uccello une valeur absolument exceptionnelle, c'est que, fruit de réflexion, ils apportent la garantie que l'art pictural est véritablement en jeu. Il ne s'agit plus d'un trucage. Ce n'est pas, en effet, le hasard qui voulut qu'Uccello peignît ces trois panneaux presque semblables, mais la volonté qu'il manifestait de reprendre sous trois aspects le même sujet, en lui attribuant des constructions et des mouvements différents, pour appuyer son œuvre sur une certitude aussi absolue qu'elle pouvait l'être. C'est en quelque sorte une preuve par trois. Philippe Soupeau, 1928.
On peut peut-être dire un mot, effectivement, de cette composition en triptyque de la bataille. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que le panneau du Louvre était fait sans doute pour être mis de côté, sur un autre mur, et sans doute aussi avec une volonté de prendre en compte, de la part du peintre, cette déformation perspective de quelque chose qui est vu latéralement, alors que les autres sont vus de manière axiale et de face, tout simplement.
Ce qui m'a passionné, moi, c'est que le fait que le panneau de Paris venait angle droit par rapport aux deux autres supposait que le panneau de Paris, en fait, était regardé de biais. Et à partir de là, mon interrogation a été de me dire « Mais alors, qu'est-ce que ça change ?» On s'aperçoit que les deux cavaliers arrêtés, qu'on voyait l'un puis l'autre de trois quarts d'eau, quand on était face au tableau, en fait, Uccello les a composés de manière à ce que d'où regarde le spectateur, il semble tourner le dos au spectateur. Grâce à eux, le regard du spectateur pénètre en profondeur pour aller à la rencontre d'un groupe de 5 cavaliers. Quand le regard est parvenu à ce point, il va ressurgir avec le condottiere sur son cheval noir, qui du coup n'est pas représenté comme s'il était de trois quarts face, mais carrément de profil par rapport au spectateur. Grâce à lui, le regard du spectateur va ressurgir du fond du tableau vers l'avant, et tout se passe comme si ce cavalier, en fait, allait traverser l'espace même de la pièce pour se diriger vers l'autre paroi, vers le panneau de Florence, c'est-à-dire vers la victoire.
Si vous
regardez bien, il y a au fond exactement le même mouvement tournant qu'il y aura dans la ronde de nuit de Rembrandt. C'est-à-dire, c'est un mouvement de pivot de gens qui se dirigent vers l'arrière pour faire un quart de siècle et de cercle et se placer derrière leur chef qui va aller vers l'avant.
On sait que c'était le même ensemble, mais sans le savoir, on pourrait quand même douter de cette reconstitution. Est-ce qu'elle va à gauche? Est-ce qu'elle va à droite? Est-ce que c'est vraiment le dernier moment de la bataille? Ça fonctionne ou pas? Enfin, c'est vraiment une œuvre qui fonctionne sur elle-même avec ce cavalier. On a presque l'impression d'être sur un cheval et donc de rentrer dans le tableau, de faire le tour, d'être nous-mêmes le condottiere et ensuite d'avancer victorieusement sur les Siennois, sur la gauche.
Alors, c'est aussi un des éléments qui me montre la cohérence parfaite de tout le triptyque. Tout montre que le geste du condottiere représenté dans le panneau de Londres, Niccolò da Tolentino, cet ordre de combattre, en fait, se développe d'un panneau à l'autre jusqu'au centre du panneau de Florence, c'est-à-dire jusqu'au condottiere siennois renversé. Or, Uccello a fait exactement la même chose sur la droite, avec ce panneau venant à angle droit, où, là encore, le condottiere donne l'ordre de départ à sa troupe, et Uccello réussit ce tour de force de faire en sorte que la contre-attaque n'aille pas s'échouer dans le coin de la pièce, mais en représentant les cavaliers en avant même de la paroi, se dirige, là encore, vers le centre du panneau de Florence.
Il a raison, c'est vraiment quelque chose de très cinétique, cinématographique. On aurait tort de ne pas utiliser notre regard actuel pour essayer de comprendre ce que Paolo Uccello a voulu faire. C'est pas parce que le cinéma n'existe pas en 1438 qu'un artiste ne peut pas penser cinématographiquement.
Merci à Nadège Lanéry-Dagen, Natacha Pernac, James Bleudet, Jean Boutier et Neville Rollet. Merci également à Marion Dupont. Musique, Sylvain Lemaître et Thomas Bonvalet. Prise de son, Yann Fressy et Jean Frédérics. Mixage, Olivier Dupré. San Romano, une bataille en mouvement. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury.
Notre série consacrée à l'histoire de la Renaissance en nous intéressant à la mondialisation des savoirs à cette époque avec des chercheurs et des chercheuses qui travaillent justement sur les échanges entre Orient et Occident au moment de la Renaissance. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.